Seigneur à tes fidèles. Cette grâce de vivre le temps du carême comme un peuple consacré, de le célébrer avec amour et de le passer tout entier dans une ferveur que rien ne puisse troubler, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous.
Et avec ton esprit.
Aimons-nous les uns les autres pour confesser d'un cœur unanime la foi de l'Église universelle.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur,
qui a fait les cieux et la terre.
Prions.
Fais-moi entrer, de peur que je ne me perde.
Dieu le Père, plein de miséricorde, a réconcilié le monde avec lui par la mort et la résurrection de son Fils. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour la rémission des péchés. Il vous accorde, dans la communion de l'Église, le pardon et la paix. Il vous maintient dans sa grâce et vous conduit à la vie éternelle.
Amen.
Amen. Je lis le psaume 119, les versets 81 à 120. Je me fatigue à attendre ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Mes yeux se fatiguent à attendre ce que tu as promis. Je demande, quand vas-tu me consoler ? Je suis comme une outre séchée au-dessus du feu. Mais je n'oublie pas ce que tu veux. Est-ce que tu me feras vivre longtemps encore? Quand vas-tu juger ceux qui me font souffrir? Des orgueilleux m'ont tendu des pièges, et c'est contraire à ta loi. Tous tes commandements sont justes et vrais. On me fait souffrir injustement. Aide-moi. Un peu plus et il me ferait disparaître de la terre. Mais moi, je n'abandonne pas tes exigences. Fais-moi vivre grâce à ton amour. Alors j'obéirai à tes ordres. Seigneur, dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. Tu restes fidèle de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle est solide. Aujourd'hui, tout existe à cause de tes décisions. Oui, le monde entier est à ton service. Si ta loi ne faisait pas toute ma joie dans mon malheur, je serais déjà mort. Je n'oublierai jamais tes exigences. Par elles, tu me fais vivre. Je suis à toi. Sauve-moi, car j'ai le souci de tes exigences. Des gens mauvais m'attendent pour me faire mourir. Et moi, je suis attentif à tes ordres. Je le vois, même ce qui est parfait a une fin. Mais ton commandement est sans limite. J'aime beaucoup ta loi. Je réfléchis sur elle tous les jours. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Je le fais mien pour toujours. Je suis plus savant que ceux qui m'enseignent, car je réfléchis longtemps à tes ordres. Je sais mieux juger que les anciens, car j'obéis à tes exigences. J'évite de prendre le chemin du mal pour obéir à ce que tu dis. Je respecte fidèlement tes décisions, car c'est toi qui me les as apprises. Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel. Tes exigences me permettent de bien juger. Aussi, je déteste tout ce qui est mensonge. Ta parole est une lumière, est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. J'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. On m'a vraiment traîné dans la boue. Seigneur, fais-moi vivre comme tu l'as promis. Accepte les prières que je fais. Seigneur, apprends-moi tes décisions. Je suis toujours en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des gens mauvais m'ont tendu un piège, mais je ne me suis pas éloignée de tes exigences. Pour moi, tes ordres sont un trésor que je garde sans cesse. Ils sont la joie de mon cœur. Je m'applique à faire ce que tu veux. Voilà ma récompense, pour toujours. Je déteste les gens qui ne sont pas entièrement à toi, mais j'aime ta loi. Mon abri et mon bouclier, c'est toi. J'attends avec espoir ce que tu diras. Vous qui faites le mal, éloignez-vous de moi, alors j'obéirai au commandement de Dieu. Soutiens-moi, comme tu l'as promis, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente, sois mon appui. Je serai sauvée et je chercherai toujours à faire ce que tu veux. Tu repousses ceux qui ne t'obéissent pas. Oui, tout ce qu'ils font ne sert qu'à tromper les autres. Les gens mauvais de la terre, tu les fais disparaître comme des ordures. C'est pourquoi j'aime tes ordres. Tout mon corps tremble devant toi et tes décisions me font peur. Gloire à toi, Seigneur. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Nous affirmons et nous vivons cette conviction, nous qui sommes aujourd'hui réunis pour méditer le texte biblique et nous laisser enseigner par la parole de Dieu qui s'y manifeste et qui vient résonner dans nos vies. Et les protestants sont particulièrement attentifs à cette conviction, puisque nous avons recentré tout notre culte sur la prédication. Et en même temps, ce rapport à la parole de Dieu, il a bien changé depuis que le psalmiste a dit cette prière et qu'elle a été mise par écrit. L'incarnation en Jésus-Christ a déplacé cette parole de la loi, qui était le pilier de la Bible hébraïque, à la personne du Christ. Parole enseignée, parole vécue jusqu'à la croix, promesse de résurrection. Alors comment entendre aujourd'hui ce psaume centré sur une loi qui, d'une certaine façon, est dépassée pour les chrétiens ? Eh bien, en suivant le chemin qu'il nous propose, celui d'écouter la parole de Dieu, de la travailler et de la laisser travailler en nous. Ce psaume 119 a le même thème que le premier psaume le thème du rapport à la loi, à la Torah. Mais là où le psaume 1 affirmait que celui qui aime la Torah s'épanouit, contrairement aux méchants, on voit bien que les choses ne sont plus aussi évidentes au psaume 119. Psaume qui d'ailleurs est le plus long du psautier. Long comme un récit épique de bataille. Long comme le combat d'une volonté. Le psalmiste est toujours aussi volontaire pour rester fidèle à la Torah, aux enseignements et aux commandements de Dieu, mais il n'est plus aussi évident que ce respect et cette fidélité lui apportent des fruits immédiatement. Il entre dans une période de doute, où en tout cas sa confiance en Dieu devient plus humble. Le psalmiste affirme être persévérant, ne pas oublier les prescriptions et les paroles de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu enseigne, ce sur quoi il intervient dans la vie humaine en donnant des commandements. Et pourtant, le psalmiste se sent assailli d'ennemis, menacé, piégé, humilié, opprimé, dans la détresse. La rétribution immédiate à la fidélité de Dieu n'est plus à l'ordre du jour. Et cette absence d'effet pèse sur le psalmiste. On ne sait pas quelle est la réalité de la menace et de l'oppression qu'il vit. Est-ce qu'il est vraiment entouré d'injustes, d'égoïstes qui cherchent en permanence à l'exploiter, à établir envers lui un rapport de force en leur faveur ? Ou de méchants qui cherchent à le piéger, à l'empêcher volontairement d'être fidèle ? Ou est-ce qu'il est tout simplement entouré de gens qui font moins d'efforts que lui, qui cherchent juste à s'en tirer, sans trop faire de zèle par rapport à la loi ? Leur attitude ayant du coup tendance à lui donner envie à lui aussi de ne plus faire d'efforts pour mener une vie juste et droite, et risquant de l'entraîner vers ses mauvais penchants. Le psalmiste me fait penser un peu à quelqu'un qui apprend une nouvelle langue ou qui s'entraîne à un sport. Il y a toujours un moment où on arrive à un plateau. Et les plateaux, c'est très décourageant. Au début, on progresse vite. C'est gratifiant. Et puis la gratification, ça nous fait sécréter des endorphines. Vous savez, ces hormones qui produisent une sensation de bien-être. Et puis, dans l'entraînement ou dans l'apprentissage, il arrive toujours ce moment où le corps ou le cerveau a fait toutes les adaptations superficielles qu'il pouvait faire rapidement et qu'il doit passer à d'autres changements beaucoup plus profonds, beaucoup plus complexes et beaucoup plus longs, pour ensuite continuer à progresser. Et pendant longtemps, celui qui s'entraîne, linguistiquement ou sportivement, a l'impression de ne plus faire de progrès. Et la plupart des abandons ont lieu à ce moment-là. Ce moment où les efforts ont l'air de ne plus porter de fruits. Ce moment où on n'a plus le plaisir de la rétribution immédiate. Ceux qui continuent à s'entraîner, ceux qui arrivent à dépasser ce long plateau pour recommencer à s'améliorer ou à sentir qu'ils s'améliorent, sont ceux qui sont le mieux entourés. Entourés par une communauté d'apprentissage, par de bons professeurs ou de bons entraîneurs, et par des gens qui les soutiennent et qui les encouragent. Ceux-là compensent le plaisir de la rétribution qu'ils n'ont plus par le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se soutenir et d'avoir un objectif commun vers lequel tendre. Est-ce que c'est ça que le psalmiste demande à Dieu ? D'être un bon entraîneur ? Ou de transformer son entourage ? En communauté d'apprentissage, tournée vers les mêmes objectifs que lui ? Si l'on regarde attentivement ce texte, il y a une évolution dans le texte. J'oserais même dire une progression, mais une progression qui se fait en spirale. On en revient au même point, aux mêmes difficultés, et en même temps, on a un peu avancé, on a un peu changé de regard. Les premiers versets montrent un psalmiste qui est confronté à l'adversité, à ses ennemis, mais qui est sûr de son droit, de sa droiture, de sa fidélité. Et du coup, il en appelle à Dieu pour faire justice. Et puis les 8 versets suivants remettent la Torah au centre de tout temps, de tout lieu, pilier central de la fermeté, de la persévérance et de toute la vie du psalmiste. Et ce pilier est ensuite, au verset suivant, affirmé comme une source de sagesse, comme un poteau indicateur, comme un guide pour éviter les mauvais sentiers. Le quatrième groupe de versets est plus implorant. Il oscille entre promesses de fidélité, affirmation de confiance et appel à l'aide. Appel à l'aide pas seulement pour une délivrance, et c'est bien là où les choses ont changé, pas seulement par rapport à une délivrance face à ceux qui sont hostiles, mais aussi appel à l'aide pour apprendre et pour rester fidèle à la parole de Dieu. Le psalmiste reconnaît désormais qu'il pourrait décrocher. Il n'est plus aussi sûr de sa façon de respecter la Torah. Il n'est plus aussi sûr que Dieu va l'agréer, qu'il valide son comportement, qu'il le défendra et qu'il le rendra vainqueur de ses ennemis. Il reconnaît qu'il est possible qu'il n'arrive pas totalement à respecter la Torah par ses seules forces, par sa seule volonté. Et enfin, au verset 113 à 120, le psalmiste rejette la duplicité. Il rejette ceux qui font le mal. En rejetant d'ailleurs ceux qui font le mal, la formule en hébreu nous fait comprendre que finalement, il n'était pas si éloigné que ça d'eux, qu'il y avait une certaine proximité avec les mauvais, qui n'avaient pas été avoués, pas reconnus au début. Il réaffirme sa fidélité, mais il le fait maintenant à l'inaccompli. L'inaccompli, c'est un peu comme un futur en hébreu. C'est le temps de la promesse. Donc il n'est plus aussi sûr de lui. Mais il espère et il compte sur le Seigneur, sur Dieu, pour que sa fidélité rencontre la fidélité de Dieu et que celle-ci vienne agir en lui et lui donne de rester fidèle, non plus par ses propres forces, mais par la puissance de Dieu. Ce chemin-là, qui va de l'auto-justification devant Dieu pour le convaincre de nous libérer jusqu'à la confession de notre faiblesse, pour que Dieu vienne lui-même en nous, nous rendre justes, c'est le chemin qui est proposé par le Christ, en Christ. C'est la différence fondamentale entre le rapport à la loi et le rapport au Logos incarné, à la parole qu'est Jésus-Christ. La différence, c'est la place pour la faiblesse, pour l'erreur, pour l'échec. Avec la loi, l'échec et la faiblesse étaient extérieurs. S'ils avaient besoin d'être pardonnés, ils l'étaient a posteriori, par un sacrifice. Avec la croix et la résurrection, la faiblesse et l'échec sont intériorisés, intégrés, assumés. Le pardon est donné par grâce, je dirais même presque a priori, bien qu'il faille reconnaître nos manquements pour qu'il puisse se déployer dans nos vies. La croix est une forme d'échec, d'échec vis-à-vis de la loi, mais c'est un échec dépassé, surmonté, retourné comme une chaussette par la résurrection. Le psalmiste réalise que le respect de la parole de Dieu n'est pas une performance, mais d'abord un désir. Qu'il n'a rien d'évident, qu'il se discerne, qu'il est difficile de trouver comment bien se positionner, comment bien agir, comment être et rester juste. Et surtout qu'on ne peut pas être et rester juste tout seul. Vous avez de la chance par rapport au psalmiste. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une communauté pour vous porter, pour vous entraîner, pour vous aider à rester fidèle à l'Évangile et à votre règle. Cela, bien sûr, à condition de ne pas voir d'autres membres de la communauté comme des freins, comme des tièdes, comme de mauvaises influences. Quand cela arrive parfois, lorsqu'on laisse l'animosité prendre la place de la fraternité. Recevoir ses sœurs ou ses frères en Christ nous permet de devenir une communauté d'apprentissage pour nous aider à traverser les plateaux dont la vie chrétienne est toujours faite, dont l'expérience mystique elle-même est faite. Parce que c'est là, dans ces expériences où l'on a l'impression que rien n'avance, que se tisse la vraie fidélité. Dans les efforts et la fidélité qui coûtent, dans les aveux de faiblesse et de doute, dans l'aveu que l'on a besoin de l'autre pour nous entraîner, pour nous porter vers ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes, vers l'image de Dieu qui demeure en nous. Amen. Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Élevons nos cœurs.
Nous tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, de t'adorer, toi le vrai Dieu, par ton Fils unique, Jésus-Christ. Il a pris sur lui notre nature et vécu notre vie d'homme dans la sainteté parfaite pour allumer en nos cœurs la clarté de la foi. Ayant achevé l'œuvre que tu lui avais donnée à faire, il a été soumis à la souffrance et à la mort pour nous arracher à la puissance du péché et nous délivrer de la mort. Pour toute son œuvre, nous te rendons grâce. Auteur de toute vie, nous t'adorons. Avec les armées innombrables des esprits célestes, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix, nous chantons. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ce sang répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Élevé à ta droite, il intercède pour nous. Il viendra rendre justice aux vivants et aux morts. le jour que tu as fixé. C'est pourquoi nous t'en prions, Seigneur. Envoie sur nous et sur ton Église entière ton Esprit Saint, pour qu'en nous tous puisse être vivante la réelle présence de Jésus-Christ, ton Fils. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu bénis et que tu donnes tous tes biens. Par lui, avec lui et en lui, ô toi, Père très saint, dans l'unité du Saint-Esprit, soit la toute adoration et toute louange pour les siècles des siècles.
Amen.
Amen. Et comme nous l'avons appris du Seigneur, nous pouvons prier avec confiance.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Dans l'attente du jour où le Seigneur lui-même invitera sa création tout entière au repas de sa grâce, dans l'attente du jour où nos yeux le verront comme lui nous voit déjà, dans l'attente de ce banquet de fête au terme de l'histoire, le Seigneur ressuscité nous invite au repas de l'espérance. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Venez, car tout est prêt. Venez, car vous êtes aimés.
Nous allons faire un cercle derrière les premières chaises au niveau de sœur Rebecca.
Seigneur notre Dieu, toi qui jamais ne nous abandonnes dans le désert du monde, loué sois-tu. Que ton esprit guide nos pas, soutienne notre lutte et nous garde du mal, pour que nous soyons dignes de Jésus, ton serviteur, et que nous vivions dans la lumière de ton royaume pour les siècles des siècles.
Amen.
Rassasié par celui qui est la vie, allez dans sa paix.
Amen. Comme tu as guidé le Christ au désert, dirige-nous. Comme tu as gardé, comme tu l'as gardé dans la tentation, garde-nous. Comme tu as accueilli tes disciples à la transfiguration, purifie-nous. Comme tu as donné l'eau vive à la femme altérée, vivifie-nous. Comme tu as donné la lumière aux yeux aveuglés, ouvre nos yeux. Qu'en ce carême, déjà, nous espérions la joie pascale, le matin de Pâques, la pierre roulée, le royaume de la lumière qui vient. Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il réalise en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles.
Amen. Amen.